Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Alternantaises et alternantais, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Pour ce 11e numéro, je vous parlerai de la situation politique de l'Iran, où les réformateurs et conservateurs modérés sont sortis vainqueurs du premier tour des dernières élections législatives. Je vous parlerai ensuite de trois livres, de deux nouveautés tout d'abord. La première est de Xavier Montagna et s'intitule « Pirates de la liberté ». Vous verrez, c'est assez singulier. La seconde est un recueil de reportages d'une intellectuelle socialiste révolutionnaire fort peu connue aujourd'hui, Magdeleine Paz. J'ai également exhumé une vieillerie, un livre de 1977-78 de Claude-Marie Vadreau intitulé « L'écologie, histoire d'une subversion ». Après la traditionnelle revue de presse, je vous propose de retrouver notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Le titre de cet épisode « Contenir le peuple. Comment faire, oui, comment faire pour que la démocratie ne tombe pas entre les mains de la populace inculte, autrement dit, comment faire pour qu'elle ne s'échappe pas des mains de la bourgeoisie. Dans le cadre de cet éditorial, j'aimerais vous parler d'une ville américaine. Connaissez-vous Flint? Flint, grande cité industrielle du Michigan, fief de la General Motors, ville de naissance du célèbre documentariste militant Michael Moore. Souvenez-vous, nous étions à la fin des années 80 et Michael Moore se mettait en tête de rencontrer Roger Smith, le PDG de la General Motors, pour lui demander son avis sur les conséquences sociales catastrophiques des suppressions d'emplois dans l'industrie automobile américaine et notamment dans la ville de Flint. Roger et moi, Roger and me, car tel était le titre de ce documentaire, parfois drôle mais souvent dramatique, nous montrait une ville n'en finissant plus de sombrer, et avec elle, des habitants happés par la misère, chassés de leur maison, perdant la raison. On y voyait aussi de dignes représentants de l'élite qui, entre un cocktail et une partie de golf, affichaient leur profond mépris à l'égard de ces pauvres incapables de se réinventer une vie dans un univers post-industriel. On y voyait une immense prison remplacer une usine, un musée de l'automobile pour attirer des touristes, une star du show business faire l'apologie de la pensée positive. Yes, we can, avec 20 ans d'avance. Et aujourd'hui, Flint n'en finit pas de mourir à petit feu. Dans cette ville où la communauté afro-américaine est majoritaire, près d'un habitant sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Bon, il faut dire que les classes moyennes, notamment blanches, ont fui. Elles ont fui la misère et ce qui l'accompagne d'ordinaire, la violence, la dégradation des espaces urbains, des services au public. Et comme si cela ne suffit pas, c'est l'eau du service d'eau qui est devenue dangereuse pour la santé. En 2011, pour faire des économies, évidemment, le gouverneur du Michigan a décidé que l'eau serait puisée non dans le lac Huron, mais dans la rivière Flint, une rivière polluée. Tout le monde le savait, hein. Il semble qu'avec $100 par jour de traitement anticorrosion, le problème aurait été réglé, mais visiblement, c'est beaucoup, $100 par jour. Bref, 5% des enfants de Flint ont été testés positifs au plomb et c'est irréversible. Des milliers d'enfants risquent donc d'avoir des convulsions, d'être hyperactifs, hyper irritables, de souffrir de déficiences intellectuelles. Tel est le destin des enfants afro-américains dans l'Amérique du Yes We Can. Boire du plomb ou se prendre une balle. Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité. Les élections iraniennes ont rendu une partie de leur verdict. La montée en puissance des réformateurs et conservateurs modérés est venue conforter le président Rouhani dans sa stratégie d'apaisement, dans sa volonté de faire de l'Iran un état normal et non plus voyou aux yeux du monde dit libre, et notamment à ceux du premier d'entre eux, les États-Unis d'Amérique. Ce retour en grâce de l'Iran, suite à la signature d'un accord sur le nucléaire, restera d'ailleurs l'une des rares réussites du président Obama sur la scène internationale, avec évidemment la question cubaine. En votant majoritairement pour les candidats conservateurs modérés, les Iraniens et Iraniennes ont montré qu'ils souhaitaient qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le pays, une ère plus pacifique et surtout moins dure socialement pour les gueux. Si l'on devait faire un tableau de la situation économique et sociale du pays, on pourrait dire ceci. La monnaie iranienne, le rial, ne vaut plus grand-chose. L'inflation, elle demeure forte, ce qui pèse lourdement sur les budgets familiaux, d'autant plus que la croissance est en berne et que le chômage atteint les 20%. Un chômage qui touche également les cohortes annuelles de diplômés, hommes et femmes, car, ironie du sort, la scolarisation des femmes s'est développée massivement depuis que les islamistes radicaux sont parvenus au pouvoir. N'oublions pas également les trafics en tout genre, la contrebande, le secteur informel, qui ne peuvent que prospérer en période d'embargo. À cela s'ajoute l'effondrement des cours du pétrole qui atteint gravement le pays, qui a toujours compté sur l'or noir pour remplir ses caisses. Bref, l'économie iranienne va mal et c'est cette conviction qui a poussé le président Rouhani à rechercher un accord avec les puissances occidentales afin de desserrer l'étau, de mettre un terme à l'embargo, afin aussi d'éviter une possible explosion sociale, un printemps perse. Cette perspective inquiète également les tenants de la ligne dure du régime autour du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ce dernier a récemment déclaré que voter était un devoir divin, que donc l'abstention était un péché, tout comme le vote blanc. Et voyez-vous, même un régime autoritaire a besoin de légitimité. La République islamique n'est pas une démocratie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est une dictature à proprement parler. Disons pour simplifier que le jeu politique est entre les mains de la génération qui a fait la révolution en 1979 et qui s'est notabilisée depuis. Rappelons que les glorieux révolutionnaires de 1979 sont devenus des entrepreneurs omnipotents à défaut d'être performants et compétents. À l'instar des hauts gradés de l'armée égyptienne, nos gardiens de la révolution ont mis la main sur les secteurs les plus rentables de l'économie nationale et font du business au nom d'Allah. Of course. Cette génération, depuis le haut, le guide suprême jusqu'au bas, l'élu local, l'entrepreneur lié au régime, s'efforce donc de contrôler le rythme d'évolution inéluctable du système. Cela passe notamment par un accès très contrôlé au marché électoral. Le système de désignation des candidats est ainsi entre les mains du ministère de l'Intérieur. Les partis politiques n'existant pas, tout candidat désireux de se présenter voit sa candidature être examinée par des structures dépendant du ministère. Cette année encore, les candidats réformateurs ont été la plupart du temps recalés, et ce, sans que le président Rouhani ne s'en émeuve outre mesure. Il semble que celui-ci n'ait pas voulu, en prenant position pour l'inscription des candidats réformateurs, apporter de l'eau au moulin des durs du régime qui voient en lui un possible fossoyeur de la nation. Rouhani est au centre du jeu, et il sait que les réformateurs le soutiendront majoritairement, car ils auraient tout à perdre d'un retour au pouvoir d'un nouvel Ahmadinejad, par exemple. Concrètement, Rouhani, le mollah polyglotte constitutionnaliste de formation, est sous surveillance. La situation économique et sociale est telle que les conservateurs ont été contraints d'accepter le processus de rapprochement avec les puissances occidentales initiées par Rouhani. Mais ils n'entendent pas lui laisser les mains libres pour bousculer l'ordre social et sociétal. On se souvient de la réélection plus que douteuse de Mahmoud Ahmadinejad en 2009 et des violences qu'ont à subir les opposants au régime, victimes de la violence des Basidji, ces miliciens aux ordres des gardiens de la révolution. L'aile dure du régime a-t-elle intérêt aujourd'hui à jouer du gourdin plutôt qu'à lâcher du lest? Rien n'est moins sûr. Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
En 2009, Xavier Montagna m'avait enchanté en comptant avec talent l'évasion rocambolesque en 1990 d'opposants politiques chiliens du Front Patriotique Manuel Rodriguez, le FPMR. Il récidive avec « Pirates de la liberté », un livre qui nous met dans les pas du méconnu directoire révolutionnaire ibérique de libération, le Drill. Nous sommes à la fin des années 50, et pour ranimer la flamme antifasciste, des militants portugais et espagnols décident de frapper un grand coup. Arraisonner un paquebot portugais pour rappeler au monde que la péninsule ibérique vit depuis les années 30 sous la férule de deux fascistes catholiques nationalistes, Salazar et Franco. Pourquoi ranimer la flamme? Parce que les espoirs d'émancipation nationale, sociale ou politique peinent à résister à l'usure du temps. La plupart des exilés ont perdu l'espoir de voir les deux sinistres dictateurs être balayés par un vaste mouvement populaire armé. Ils ont pensé un temps que dans la foulée de la défaite du nazisme, le monde dit libre les aiderait à franchir les Pyrénées. Il n'en fut rien. Au nom de l'anticommunisme, les démocraties libérales ont préféré soutenir Franco et Salazar plutôt que de risquer de voir la péninsule ibérique basculer dans le camp socialiste. 20 ans ont passé, et derrière les vieilles bannernes en uniforme, une nouvelle génération pointe son nez qui veut allier modernisation économique, conservatisme social et ordre moral. Du côté des organisations, certaines, comme le Parti communiste espagnol, ont fait le choix tactique d'abandonner la lutte armée ou le soutien à celle-ci pour entamer un travail de longue haleine de retissage d'un tissu antifranquiste à l'intérieur. D'autres font toujours dans le verbalisme révolutionnaire à peu de frais et freinent des quatre fers dès qu'il faut agir concrètement. Du côté des anarchistes, certains, comme Sabaté, tué en 1960, ou Caracremada, tué en 1963, continuent à franchir les Pyrénées et à narguer la Guardia Civile. C'est dans ce contexte quelque peu morose qu'une poignée d'hommes monte le directoire révolutionnaire ibérique de libération, le Drill, persuadé que ce qui a pu être fait à Cuba avec Fidel Castro peut l'être à Madrid et à Lisbonne. Le Drill rassemble des militants venant d'horizons très différents, comme un nationaliste galicien, vétéran de 1936, et un officier portugais dissident, des hommes sûrs et d'autres qui le sont bien moins. Le programme du Drill est nationaliste et de gauche, même si, comme le souligne l'auteur, le Drill n'a produit aucune idéologie propre. Pour le Drill, il faut arracher la nation des griffes de la réaction et la refonder sur des bases socialisantes. Voilà tout. Le 22 janvier 1961, 24 hommes, très faiblement armés, prennent le contrôle d'un paquebot transatlantique portugais, le Santa Maria, qu'ils rebaptisent aussitôt Santa Libertad. L'action se fait sans grande violence, mais avec la détermination nécessaire pour contrôler à la fois les centaines de touristes et d'hommes d'équipage qui y vivent et craignent légitimement d'y perdre leur peau. Durant une semaine, le Santa Libertad va ainsi voguer sur les mers, cherchant tout d'abord à rallier l'Afrique avant de faire machine arrière et de trouver refuge auprès de la jeune démocratie brésilienne après avoir négocié avec le gouvernement américain la libération des passagers. On imagine la colère de Salazar et Franco, humiliés par une bande de flibustiers internationaux qui, en quelques jours, ont rappelé au monde la nature des régimes en place à Madrid et Lisbonne. Mais également redonner de la vigueur au secteur de l'exil, notamment dans la jeunesse, désireuse d'en découdre militairement. Ce qu'il advint de ces militants antifascistes, eh bien, vous le saurez en lisant ce livre passionnant intitulé « Pirates de la liberté », histoire détonnante d'un détournement de paquebot et de la lutte armée contre Franco et Salazar, 1960-1964. C'est publié par les éditions de L'Échappée, en 2015, l'auteur Xavier Montagna.
Lolo.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Journaliste et militante, femme de cœur et d'engagement, Magdeleine Paz fait partie de ces inconnus qui ne méritent pas de l'être. Et le fait qu'elle soit femme ne doit pas être étranger à son oubli. Ce n'est donc pas le moindre mérite de ce livre, organisé et présenté par Anne Mathieu, docteur en littérature contemporaine, que de sortir de l'anonymat cet intellectuel de l'entre-deux-guerres, communiste oppositionnel et profondément humaniste. « Je suis l'étranger », titre de ce livre, rassemble une trentaine d'articles et de reportages que Magdeleine Paz a rédigés dans les années 30 pour différents journaux de gauche, ainsi qu'un ensemble de textes, articles, courriers, etc., relatifs à la défense de Victor Serge, l'écrivain militant, victime de la répression stalinienne. Magdeleine Paz a la plume littéraire et elle entend parler autant au cœur qu'au cerveau des lecteurs. Elle témoigne et elle conjure celles et ceux qui la lisent de ne pas laisser faire, de prendre parti. Prendre parti pour ces jeunes noirs, victimes à Scottsboro du racisme institutionnel aux États-Unis. Prendre parti pour ces jeunes migrantes polonaises surexploitées dans la France rurale du Nord. Pour ces immigrés, kabyles ou marocains, vivant dans le dénuement à Paris. Pour ces réfugiés politiques et ces juifs allemands menacés d'expulsion. Une expulsion qui a la forme légère, impersonnelle et anodine d'une feuille de papier bleu, écrit-elle. À l'heure où on expulse la jungle à Calais, où l'on fait la chasse aux réfugiés et migrants qualifiés d'économiques, à l'heure où l'Europe est confrontée à des flots ininterrompus de migrants fuyant une Syrie en guerre, il faut lire Magdeleine Paz, qui nous parle alors d'une « France des portes fermées et des murs inexorables », en priant pour qu'il y en ait une autre. Avec force, elle conjure ses contemporains de ne pas voir dans l'immigré, tel le Polonais mineur de fond et le réfugié, un concurrent et un poids pour la nation. Elle les supplie d'ouvrir les yeux sur la façon dont la patrie des droits de l'homme se comporte dans ses colonies, où injustice, misère, racisme et mépris lui servent d'étendard civilisateur. Elle souligne que le souffle libérateur du Front populaire s'est fait sentir également au-delà des mers, aux grandes dames des colons réactionnaires. L'un de ses grands combats, arraché des griffes du Guépéou, Victor Serge, l'ex-anarchiste converti au bolchevisme, l'ardent défenseur de la révolution russe, devenu opposant au stalinisme, exilé loin de Moscou, aux confins de l'Oural. On craignait pour sa vie, à raison. Infatigable, Magdeleine Paz s'est démenée sans compter pour obtenir l'expulsion vers la France de Victor Serge. Tâche difficile, puisque pour cela il lui fallait affronter tous les appareils de propagande du Parti communiste, pour qui un opposant même de gauche à la dictature sur le prolétariat ne pouvait être qu'un agent du fascisme et de la bourgeoisie. « Il faut une certaine vaillance pour aller contre le courant », a-t-elle écrit en 1922. De vaillance, elle n'en a jamais manqué. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce livre, Magdeleine Paz, « Je suis l'étranger », reportage suivi de documents sur l'affaire Victor Serge, publié par la Thébaïde en 2015. En haut à gauche, derrière le bibelot.
Quando ti ricoverano?
Exhumation.
Porta le armi.
À l'heure où, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, évidemment, quelques vers tendres s'en vont manger dans la gamelle sociale libérale, il est bon de se replonger dans l'histoire de ce courant politique contemporain. Fouillant ma bibliothèque, j'ai retrouvé un livre intéressant d'un journaliste militant, Claude-Marie Vadreau, intitulé « L'écologie, histoire d'une subversion ». Ce livre est sorti en 1978, sans doute juste avant les élections législatives du mois de mars, où, pour la première fois sous la Ve République, la gauche semble en mesure de devenir majoritaire dans le pays. C'est donc en gardant en tête ce contexte particulier qu'il faut lire ce livre. Claude-Marie Vadreau rappelle que l'écologie a pour géniteur la protection de la nature. Une protection de la nature qui, pour l'essentiel, se veut à la fois scientifique et apolitique. Les acteurs de ces mouvements ne mettent en cause ni le capitalisme, ni la république des copains et des coquins. Ils voient même d'un mauvais œil la nouvelle vague post-68 qui s'empare de la question écologique et la colore de rouge et de noir. Sans oublier bien sûr la candidature du célèbre René Dumont, agronome de réputation internationale, à l'élection présidentielle de 1974. Dans une seconde partie, l'auteur offre une compilation de textes produits par les différentes tendances de l'écologie politique. On y trouve les écolos libertaires, situationnistes, porteurs d'une critique radicale du mode de production capitaliste et de la marchandisation de tous les aspects de la vie quotidienne, qui n'hésitent pas à prôner des formes de sabotage pour se défendre de cette logique mortifère. Il y a les écolos œcuméniques qui entendent rassembler toutes les bonnes volontés pour préserver l'avenir de l'humanité. Et entre les deux, des voix s'élèvent contre le sectarisme de certains, leur intolérance hargneuse, leur agressivité permanente au nom d'une prétendue pureté idéologique. Il y a ceux qui refusent le cirque électoral et ceux qui veulent s'y investir pleinement, sans oublier ceux qui, tout en s'en méfiant, considèrent cependant que le combat électoral doit être mené pour populariser les thèses écologistes. Et déjà, Claude-Marie Vadreau pointe le risque que court le mouvement écologiste, celui de la notabilisation, ce qu'il appelle l'écolocentrisme de bon aloi. Pour Claude-Marie Vadreau, l'écologie politique est nécessairement critique à l'égard du système capitaliste. Et son allié naturel, c'est la gauche, dont il ne nie pas évidemment la matrice productiviste. Il faut donc la convaincre, cette gauche, et la contraindre à s'approprier les thèses écologistes, antinucléaires, autogestionnaires. Il faut, par une guérilla permanente, nous dit-il, éveiller les masses, et notamment les classes populaires. Il faut saisir au collet ce monde aliénant et destructeur des écosystèmes. L'avenir du mouvement écologiste, écrit-il, est probablement plus dans cette guérilla aux formes multiples que dans l'intégration à la mécanique électorale. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous laisse juger. En tout cas, si vos pas vous mènent vers quelques bibliothèques, eh bien, essayez de trouver ce livre de Claude-Marie Vadreau, L'écologie, histoire d'une subversion, édition Syros, 1978. Nouvelle Donne, Vieille Rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de l'excellent Courrier International, qui regorge d'informations sur ce qui se passe au-delà de l'Hexagone, et celle quotidienne du journal en ligne Mediapart, j'ai reçu, lu ou parcouru un certain nombre de journaux et de revues ces dernières semaines. Dans le numéro 355 d'Alternative Économique, vous trouverez un dossier intitulé « La musique » peut-elle être gratuite? Et si oui, oserais-je, à quel prix? Autre dossier fort de ce numéro de mars, la politique de la Banque Centrale Européenne, initiée par son président Mario Draghi. Par ailleurs, le mensuel économique social-démocrate vous emmènera en Corée du Nord pour y scruter le fonctionnement économique, dans l'Europe du travail dissimulé, au Japon du côté de Fukushima. Parallèlement, Alternative Économique a publié son traditionnel « État de l'économie 2016 » qui tient davantage d'un état des lieux national et international. Pour preuve, des articles sur le vote Front National, l'ubérisation du travail, la panne de l'ascenseur social, mais aussi le Brexit, la crise chinoise, des réflexions sur l'économie circulaire ou l'après COP21. Le numéro 77 de Questions internationales, publication de la documentation française, concerne l'Iran et son retour au premier plan sur la scène internationale. Ce retour étant lié au récent accord sur le nucléaire, un accord signé par le président Rouhani et la communauté internationale, notamment le président Obama, aux grandes dames du royaume saoudien et de l'État d'Israël, qui plaidaient au contraire pour la poursuite d'une politique de sanctions à l'égard de Téhéran. Outre la question du nucléaire civil et militaire analysée par l'ancien ambassadeur François Nicoulou, sont abordées les relations internationales, donc la volonté affichée de l'Iran de s'affirmer comme une puissance régionale capable de damer le pion à son rival saoudien, tout en restant pragmatique, la réelle politique étant une constante de la politique régionale iranienne, si l'on en croit l'historien Jean-Paul Burdi. L'économie à la dérive n'est pas oubliée, tout comme la professionnalisation de la vie politique ou encore une question théologico-politique où se niche l'autorité dans le chiisme. J'ai particulièrement apprécié l'éclairage de la politiste Myriam Benrad sur les relations iraco-iraniennes, tout comme celui de Gilles Rio sur la gestion de la pluralité ethnique dans l'ancienne Perse. Rappelons ainsi que la lutte armée n'a pas totalement disparu du Baloutchistan sunnite, un vaste territoire au sud-est du pays à cheval sur la frontière irano-pakistanaise. Mais, signe d'ouverture, signalons que pour la première fois, un Kurde de confession sunnite a été nommé ambassadeur de la République chiite iranienne.
Thank you.
Giocano già sto muro. Un muro. Il muro. Giù. Giù.
Capitalisme, individu et société. Feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Comment faire pour que la minorité des gens bien nés, éduqués et socialement à l'aise ne soit pas submergée par la masse des pauvres, des gueux, des humbles? Tel est le grand but que se fixent les libéraux du XIXe siècle. But difficile à atteindre, tant la situation sociale dans les pays européens en phase d'industrialisation est grosse d'inquiétude. Le danger qui nous menace le plus est qu'une nouvelle invasion des barbares, née cette fois au sein même de la société, n'anéantisse le foyer de la civilisation et de la richesse. Ces mots, de 1850, sont l'œuvre d'un socialiste modéré prussien aujourd'hui complètement oublié, Johannes Karl Rodbertus. Il y a un siècle et demi, les élites politiques de l'Occident, libérales, conservatrices ou réactionnaires, voient monter le péril, celui incarné par ces masses de gueux chassés des campagnes, prolétarisés, s'agglutinant dans les cités industrielles nouvelles pour y vendre leurs bras. Des classes laborieuses qu'on appellera également volontiers des classes dangereuses. Des bourgeois philanthropes décrivent avec application la situation sociale du prolétariat. Travail harassant et salaire de misère, logements insalubres, maladies contagieuses, alcoolisme, mœurs dépravées, prostitution, délinquance, dislocation des familles, éloignement d'avec la religion. À Paris, les études de Villermé sur les conditions de travail font grand bruit. À Nantes, le bon docteur Guépin fait un tableau saisissant de la situation des classes laborieuses dans la cité des Ducs. Il écrit ainsi à propos du lumpen prolétariat de la ville, « Vivre pour lui, c'est ne pas mourir ». En 1845, Engels écrit ceci dans son ouvrage « La situation de la classe laborieuse en Angleterre ». L'esclavage auquel la bourgeoisie a soumis le prolétariat ne se présente nulle part plus clairement que dans le système des fabriques. Ici, toute liberté cesse, de droit et de fait. L'ouvrier doit être à la fabrique le matin à 5h30. S'il arrive un couple de minutes plus tard, il est puni. S'il est en retard de 10 minutes, on ne le laisse entrer qu'après le déjeuner, et il perd un quart de journée de salaire. Il faut qu'il mange, boive et dorme au commandement. Le fabricant est législateur absolu. Il fait des règlements selon son bon plaisir, il amende son code et y fait des additions comme bon lui semble. Qu'il introduise les dispositions les plus extravagantes, les tribunaux n'en diront pas moins à l'ouvrier, puisque vous avez accepté librement ce contrat, vous devez vous y soumettre. Ces travailleurs sont condamnés à vivre, de l'âge de 9 ans jusqu'à leur mort, sous la verge spirituelle et corporelle. Pour le révolutionnaire Louis Blanc, le libéralisme n'a en vue que l'augmentation de la richesse produite et ne se soucie pas de sa répartition. « Elles étaient sans entrailles, ces doctrines, dit-il, et laissaient l'existence du faible à la merci du hasard. » Les libéraux commencent cependant à prendre conscience qu'il est de leur intérêt de soulager la misère touchant des pans entiers de la population. N'oublions pas que l'Angleterre a été secouée dans les années 1810 par la révolte des artisans du textile contre la mécanisation de leur métier, le fameux mouvement ludite. Que la France à Lyon a vu ces mêmes artisans du textile, les canuts, s'insurger pour les mêmes motifs en 1831 et en 1834. Ces événements traumatiques ont marqué les esprits. Cependant, certains ne se résolvent pas à l'idée que des politiques sociales puissent prendre le pas sur la charité et la philanthropie. C'est le cas de Frédéric Le Play, polytechnicien et philanthrope, qui mène de longues enquêtes sur ce monde ouvrier misérable. Face aux doctrinaires, Le Play se pose en scientifique et en moraliste. Pour résoudre la question sociale, Le Play ne fait confiance ni à l'intervention de l'État, ni à la générosité privée. Il promeut ce qu'il appelle le patronage volontaire. Considérant que la misère ouvrière a pour raison principale l'incapacité des ouvriers à épargner et à vivre en bonne moralité, il considère que le patronat ne doit pas avoir pour fonction principale de donner du travail ou de développer ses affaires, voire même d'améliorer les conditions de vie de ses salariés. Non, le patronat doit former moralement les ouvriers. Il doit, écrit-il, propager chez les ouvriers la connaissance de l'ordre moral et le respect des lois de la famille. C'est le cas de Joseph Garnier, qui en 1857, dans un article du Journal des économistes, explique la misère sociale principalement par l'imprévoyance des pauvres, qui fait les familles nombreuses, et leurs vices, insouciance, paresse, dissipation, perversion du sens moral, débauche, ivrognerie. Il critique également la charité, publique ou privée, qui n'est pas, je cite, « un remède à la misère, mais un simple soulagement qui peut même s'avérer très inefficace si la charité est faite avec inattention et inintelligence ». Même son de cloche avec le philosophe et sociologue anglais Herbert Spencer, qui avec ses ouvrages notamment « L'individu contre l'État » publié en 1885, se fait le pourfendeur de l'État social. Il entend combattre cette opinion derrière laquelle le gouvernement devrait intervenir toutes les fois qu'une chose ne va pas bien. L'État, il le veut minimal, en retrait, et ce, pour au moins deux raisons. La première raison est qu'elle déresponsabilise les individus. Il se plaint ainsi que l'idée que le but désiré doit être atteint par l'action individuelle ou des associations particulières devienne de plus en plus étrangère à chaque génération. Il souligne également que la sympathie pour une personne qui souffre supprime, pour le moment, le souvenir des fautes qu'elle a commises. En d'autres termes, il oppose la misère des pauvres méritants à la misère des pauvres déméritants. La seconde raison est qu'elle transforme l'État en une énorme machine bureaucratique. Il écrit « Toute extension de la réglementation administrative implique la création de nouveaux agents régulateurs, un plus grand développement du fonctionnarisme et une augmentation de la force des corps de fonctionnaires. Or cet État, il faut le faire vivre en accablant d'impôts la population, notamment, écrit-il, les pauvres dignes d'intérêt qu'on accable de charges pour venir en aide aux pauvres indignes de tout intérêt. » Pour Herbert Spencer, le libéralisme qui par le passé s'est battu pour limiter le pouvoir des rois doit aujourd'hui se battre pour limiter le pouvoir des parlements, empêcher les parlementaires d'intervenir dans le champ social et économique pour régler les différends entre patronat et travailleurs, par exemple, ou pour soulager la misère. Pour Spencer, cette dernière mission est du ressort de la charité, car si on l'étatise, on favorise la survie d'individus dépourvus de qualité. Si la multiplication des individus inférieurs, dit-il, était favorisée et la multiplication des individus supérieurs entravée, il en résulterait une dégénérescence progressive. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine, à bientôt sur Alternante FM.